sur les Rieuse, parce que, vous savez, il y a une façon de contrer, alors, tous les gens ne comprennent pas ça, mais il y a une façon de contrer la haine, la bêtise, c'est le second degré, c'est l'ironie, et c'est la moquerie, un petit peu, et moi j'aime bien ça, c'est comme si vous avez suivi, il y a eu pendant 2 ans, dernièrement, un spectacle, il s'appelle Les Producteurs, et c'est un spectacle qui est inspiré d'une comédie, complètement une comédie musicale américaine de Mel Brooks, qui a été mise en français, etc., et où c'est deux producteurs véreux qui décident de monter la pire pièce du monde, et c'est une pièce qui est écrite par un nazi, d'ailleurs il n'est pas néo du tout, par un nazi à la peur d'Hitler, et du coup c'est tout tourné en ridicule, et comme c'est dit d'ailleurs dans ma pièce, c'est pas la peine de se forcer pour tourner Hitler en ridicule, finalement il s'en est bien occupé tout seul. Je crois qu'il y a une forme de résistance réellement, et d'ailleurs elle est très dérangeante par l'ironie, par la moquerie. Vos trucs, ça ne m'impressionne pas, d'ailleurs ça me fait marrer. Et il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas, hein. C'est vraiment l'acceptation du second degré dans toute sa splendeur. Je trouve que la tyrolienne haineuse est une forme comme ça, c'est une chanson de Pierre Dac, que Pierre Dac a écrite. Alors Pierre Dac, il faut savoir aussi son histoire par rapport à la résistance, etc. Et quand on voit qu'elle est malheureusement toujours d'actualité, du reste, c'est pour ça que je l'ai reprise à cette époque-là, je connais bien la tyrolienne haineuse pour ça.
Cette haine qui saoule les esprits, renie la fraternité, l'altruisme est foutu, il n'y a plus d'altruisme. Merci. L'espoir, c'est que la haine, il n'y a qu'une chose à faire, c'est de rassembler pour toute la terre, tous les hommes généreux qui, d'un cœur valeureux, haïssent la haine et les haineux.
Alors c'est très drôle, mais en même temps, c'est sans fin, quoi, parce que haïr le haineux, c'est encore faire un autre de haine, c'est toujours. C'est un peu la question voltairienne de se dire doit-on tolérer l'intolérable, doit-on se montrer intolérant envers les intolérants, enfin, c'est infini comme question.
Je déteste ce que vous dites, mais je ne me battrai toujours plus fou, si vous dire.
Ce n'est pas vraiment lui, ça. Vous savez que c'est une citation que j'ai faite, mais ça, il n'y a pas tellement longtemps, donc j'aime bien étaler ma culture. En fait, c'est quelqu'un qui avait écrit une préface à l'œuvre de Voltaire et qui avait écrit ça, et ça a été attribué à Voltaire par la suite.
Alors sur ce
pardon, je vais vous couper, mais effectivement, elle est quand même assez éclairante sur la philosophie voltairienne, sans doute.
Alors, on va passer quand même, parce qu'on a écouté donc la tyrolienne haineuse au début de cette interview, on va passer à une chanson de Là où l'œil se pose. Donc, il y a une alternance de choses un peu légères et de choses un peu plus graves. On va passer aux choses un petit peu plus légères, mais juste avant, moi j'ai une interrogation sur les pochettes de vos albums. Qui est-ce qui contribue? Est-ce que c'est vous qui faites le choix de ces angles-là, notamment la dernière pochette?
Absolument. Alors c'est tout à fait... généralement, vraiment, j'ai toujours une idée très précise de ce que je veux. Et là, j'ai rencontré une jeune femme qui est québécoise, qui s'appelle Cheyenne, son prénom, et avec qui on avait envie de travailler, et puis elle a dit, moi je vais construire une maison de poupées, en fait, je vais construire ta maison. Et en fait, toutes les photos de l'album, c'est une maison de poupées. Il y a des gens qui me demandent si c'est chez moi, c'est ça que j'adore, donc c'est super bien fait, évidemment. Donc c'est une maison de poupées, en fait, c'est une petite miniature. J'avais très envie de ça, c'est-à-dire un côté... Parce que, en fait, pourquoi les chansons de la rue se posent, c'est bien parce que c'était le confinement et qu'on est resté chez soi. Et j'avais envie de montrer qu'un... Finalement, un chez soi, ça peut d'abord... Il y a plein de choses à regarder chez soi, en fait. On a été obligé de le faire pendant un certain temps. Et que... J'avais envie de voir aussi le chez soi comme quelque chose de super, comment dire... Évidemment, rassurant, confortable, mais en même temps, bourré d'histoires, il y a plein de petites choses. En fait, les gens ne savent pas, mais par exemple, il y a le portrait d'un petit garçon en noir et blanc, c'est mon papa, en fait, c'est la photo de mon père, quand j'étais petit. Et il y a comme ça des trucs que j'aime beaucoup, il y a le portrait de Rosa Bonheur qui est là, enfin, il y a des gens comme ça qui sont dans mon histoire sentimentale, littéraire, Céline, elle s'est amusée à refaire tous les volumes de la Comtesse de Ségur dans l'édition que j'avais quand j'étais petite, donc une édition bleue, tout ça, ils sont dans un coin, ils sont en réalité, ils mesurent 1 cm de haut, elle a tout refait comme ça, il y a plein de choses, les disques qui traînent, c'est les disques que j'aime, et on a fait une espèce de compilation dans une maison, à la fois qui évoque les chansons, et à la fois, c'est une chevaux qui est garée dans la porte, évidemment, et à la fois une espèce d'évasion aussi de tout ce qui nous permet de nous évader, même quand on est enfermé entre quatre murs, donc enfermé dans sa maison comme on l'a vécu au moment du confinement.
Alors, moi je te présente ça à mon fils qui est avec toi, c'était une maison coupée, moi je l'avais pas vu. Moi j'avais vu le Judas quand on regarde à travers le Judas. Voilà. Et je vous promets, vous le regardez tranquillement, c'est des Judas portatifs. On a ici un musée au Masnazil, on en parlait tout à l'heure, là vous l'avez à l'envers. Les Judas portatifs, c'est un artiste à l'époque, malheureusement décédé depuis, qui a inventé un magnifique qui s'appelle la Fabuloscope, qui est au Masnazil. Donc vous êtes invité par les administratifs à y aller faire un tour, et il y a 300-650 objets qu'il a fabriqués lui-même, dont des Judas portatifs.
J'aime bien en plus le Masnazil, c'est beau, moi j'ai le souvenir de la grotte.
Alors, on va passer à la première chanson qui est la housse et la couette.
Oui.
Alors, la housse et la couette, c'est vous avez fait une clip vidéo pour illustrer la chanson, et c'est dans votre registre de chanson, là où le se pose, c'est les objets du quotidien qui vous inspirent toute inspiration.
Oui, alors c'était amusant parce que, évidemment, je ne suis pas toute seule à avoir des problèmes avec ma couette dans ma housse. C'est pas un exercice toujours très simple. Mais ça m'amusait d'écrire une chanson sur un sujet comme ça, très léger, et en même temps d'en faire un objet littéraire avec un milliard de références tout plus osées les unes que les autres. Donc il y a Garcia Lorca qui passe par là avec son. À 5h du soir, pour le Rome d'Alousse. Donc il y a vraiment plein de références dans tous les sens. Je trouvais ça très très amusant de bourrer un sujet aussi banal, aussi agaçant d'ailleurs qu'une housse et une couette, hein, d'en faire un objet littéraire pour un premier moment, c'est ça, avec plein de références. Et puis c'est rigolo. Et les gens, ça leur prend.
Il y a Marcel Proust,
oui. Vous avez dit. C'est la première qui m'est venue en fait. Je me suis dit, il faut absolument que je fasse ça. Une fausse rime, quoi. La rime qui marche pas, quoi, en fait.
Il y avait Confucius qui était possible.
Oui, il y avait plein. Moi, j'en ai trouvé pas mal, mais j'en ai gardé quelques-unes. Il y en a une qui est fausse, j'en suis tout à fait désolé, mais c'est pas grave, c'est l'audaté dominus. Normalement, c'est l'audaté dominum. Et c'est un accusatif, c'est pas un nominatif, donc ma révision du latin, c'est un peu vautré. Mais bon, c'est pas grave parce que c'était drôle de faire ça quand même.
Alors on va l'écouter. Et après, donc on enchaîne entre le tour et le grave sur Le Seigneur des Mouchements. C'est une chanson qui m'a particulièrement touché parce que, bien sûr, dans l'actualité, le harcèlement scolaire, etc. Mais surtout, parce que vous, la référence à ce livre, je pense qu'elle est de William Goldin.
Absolument.
Voilà. Et cette dénonciation paraît sous un angle détourné. Des harceleurs et de ce qu'ils deviennent.
Alors, je ne sais pas si c'est une dénonciation, non, ça le constate, tout simplement. Mais, oui, de ce qu'ils peuvent devenir. En réalité, c'est souvent pas du tout ça qui se passe. Hein. Les harceleurs sont généralement des gens un peu... Ce que ça dit à un moment dans la chanson, c'est que je savais déjà, au fond, si minable, que c'était exactement le plus misérable. Hein. C'est-à-dire, ce sont des gens qui sont... fondamentalement déséquilibré, malheureux, il y a certainement des choses qui ne sont pas réglées ou qui font que, en fait, après, dans le futur, ça devient souvent des gens assez médiocres. Donc, même pas vraiment fondamentalement des. Mais c'était l'image du haineux, justement, on en revient encore à notre tyrolienne haineuse. Des gens qui ne savent faire que ça aille. C'est beaucoup multiplié, on le voit, on le sait, sur les réseaux sociaux. Moi, je fais une petite parenthèse pour dire que. Les réseaux sociaux, moi, je n'aide pas du tout le tout. C'est comme la langue des hommes, hein. C'est la meilleure et la pire des choses. Donc, il y a des choses très, très belles, très bonnes, hein, des apports formidables dans les réseaux sociaux, les communications entre les gens qui communiquent leur savoir, aussi leur connaissance, c'est assez extraordinaire. Et puis, en même temps, voilà, il y a cette espèce de flot de haine, hein, mais qui, je ne sais pas comment dire, en fait, en réalité, il ne devrait pas dépasser le couloir de chez les gens, quoi. Je veux dire, c'est parce qu'ils sont devant un ordinateur chez eux et ils ne se rendent pas compte qu'ils sont sur une place publique. Il viendra l'aider personne d'aller se mettre sur la place publique en disant, je ne sais pas, quoi, c'est ceci ou c'est cela, et ça fait dans les lecteurs, ça distrait immédiatement, casser la gueule, quoi, vers juste titre d'ailleurs. Et sur les réseaux sociaux, c'est permis parce qu'en fait, on est chez soi, on est dans l'intimité de sa maison et on se sent justement qu'on va protéger par ça. Et ça, c'est vraiment une question de je pense, d'éducation. On est aujourd'hui dans une génération qui découvre ça. Il n'y a pas encore un vrai. Oui, puis une éducation à ça. C'est-à-dire qu'à un moment, les gens qui connaissent les réseaux sociaux aujourd'hui, ils vont éduquer leurs enfants. Un peu plus tard, ça commence sans doute. Donc, ils vont leur apprendre des choses par rapport à ça. Là, le départ, c'est. Personne n'en sait rien. Enfin, je ne sais pas comment dire. Donc, il n'y a pas des parents qui vous ont dit non, ça ne se fait pas. Et à partir du moment où il y aura des parents qui vont dire non, ça ne se fait pas, c'est comme ça. Il y a un fonctionnement qui va se mettre en place, une transmission, une éducation. Et pour l'instant, elle n'existe que très peu, quoi. Mais je pense que ça s'arrangera.
C'est aussi des assassins couteaux, à certains moments.
Oui, absolument, c'est tout à fait ça. Ils rentrent dans la catégorie des assassins couteaux. Quand j'écris la chanson, ça n'existait pas, les réseaux sociaux, sinon ils y auraient été dedans, bien sûr. Les gens qui ne se rendent pas compte de la violence qui suscite. Je pense, puisque chaque fois qu'il y a eu des procès autour de ça, des gens qui ont comparu devant la justice, ils se sont, je ne sais pas s'ils se sont rendus compte réellement, mais ils ont eu peur. En fait, souvent, ils ont peur parce que dans un coup, ils se rendent compte que ça dépasse leur petite intimité, leur petit ordinateur chez eux tranquillement, en faisant ces rigolos.
Ok, donc on va écouter
le
Seigneur des Mouches, assassin sur couteau. Et on passe donc, on revient toujours sur ce même album à quelque chose de plus léger, c'est Deux Chevaux. Alors là, je vous ai écouté dans des interviews et j'ai découvert grâce à vous ce qu'était le Pantoum. Donc j'ai bien révisé, j'ai vérifié, ça respecte bien le deuxième et le quatrième vers de chaque strophe repris respectivement comme premier, troisième, etc. etc. Vous aimez, c'est l'écriture, ciseler les mots, accepter les contraintes et les intégrer.
Oui, c'était rigolo. En fait, bon, pour tout, moi j'ai appris ça à l'école parce que j'avais une prof de français qui aimait bien les formes un peu rares, donc j'avais gardé ça en mémoire et puis je me suis dit, tiens, si je faisais un pantoum, et puis je voulais écrire une chanson sur les deux chevaux, et je me suis dit, tiens, je vais faire un pantoum sur les deux chevaux, enfin, pour le truc idiot, et j'y ai passé beaucoup de temps, parce que par contre, c'est pas une contrainte simple. Que le sens avance quand même et que au niveau syntaxique ça colle quoi, c'est pas, il faut pas que voilà, si vous avez un verbe qui commence par une relative, c'est ce qui se passe à un moment, c'est dans les brumes et les moiteurs que le ciel nous offre en cadeau, que le ciel nous offre en cadeau va commencer la phrase, le couplet suivant, et ça peut être un vocatif, c'est à dire oh, que le ciel nous offre en cadeau, vraiment une. Donc là, ça marchait. Mais sinon, il faut se surveiller dans tous les sens que ça fonctionne, etc. J'ai passé beaucoup de temps. Et puis en plus, il y a une forme qui nécessite aussi une certaine longueur. Je crois qu'il y a à peu près 14 couplets encore là-dedans, 14-80 en tout cas. Des octosyllabes, forcément. Enfin, c'est que des contraintes dans tous les sens. Et l'alternance des rimes féminines, masculines. Enfin, c'est un casse-tête, quoi. C'est un véritable casse-tête.
Et même les deux sens. Les deux premiers vers doivent être de généraux et les deux suivants doivent être un peu plus.
En général, on alterne aussi parce que c'est l'idée d'un peu de métaphysique derrière, qui part d'une contemplation de la nature, d'une promenade dans la nature, et qui envoie sur quelque chose d'un peu métaphysique, justement, le prosaïque de la promenade, de la contemplation de la nature, le fait que ça envoie sur une petite réflexion sur le sens de la vie, en fait, etc.
En tout cas, ça donne un résultat réjouissant. Surtout, c'est rigolo
de le faire sur un couple de cheveux.
Moi, j'ai pensé à la porte du garage, le traîner de l'eau.
Non, mais un peu. Il y a un côté très. Je suis entraîné dans cette chanson en réalité aussi, parce qu'il y a un côté. D'abord, le fait de l'avoir aussi situé dans le sud, ça parle pour le coup, c'est les Pyrénées. Alors, c'est pas trop le coin, c'est plus vers le Béarn pour moi. C'est vraiment là. Je le dis d'ailleurs en présentant la chanson, c'est vraiment le cours de la Baïlis, en fait, quand on va de Nérac à Caverne.
C'est un hommage à vos propres défauts, vous en avez eu trois, je crois.
Absolument. J'en ai eu trois, j'ai adoré ces voitures.
Allez, on enchaîne, on écoute. Et on enchaîne avec, je vous propose de lire une très courte nouvelle de Dan Sylvestre, page 169. Logiquement, ça devrait faire le lien avec une chanson.
Oui, le problème, c'est que je ne lis pas.
Alors, je lirai à la radio. Ça parle de tomates et de l'exécration.
Oui, l'exécration qu'elle avait de la tomate, bien sûr.
Et donc, ça vous fait penser.
Mais non seulement ça me fait penser, mais c'est carrément. Donc, la Tinesse en effet. Là, je vois que c'est une petite nouvelle et c'est très rigolo, mais il y a une chanson qui s'appelle Je l'aime pas. Et c'est dans les. Par contre, c'est dans les. Comment on dit ça, les.
Chansons pour les enfants.
Dans les fabulettes.
Fabulettes.
C'est dans les fabulettes.
Ok.
Et dans les fabulettes, il y a une chanson donc qui s'appelle Je l'aime pas.
Je l'aime pas.
Et c'est la tomate. Et c'est parce que. C'est parce que Anne Sylvestre a écrit cette chanson et que je l'ai entendue. Je lui ai dit, je vais faire une chanson si je n'aime pas les corons. Parce que. Ah, mais c'est la vérité, c'est absolument la vérité. Ah, c'est marqué sur la feuille, sur le rider, mais sur la feuille de route.
Alors, Anne Sylvestre, ça m'amène, je vous réécouter juste après le petit extrait. J'ai appelé Mathilde Lumière, les ordres de Marac.
Ah oui, bien, bien sûr.
Et elle a une question que je vous réécouter juste après, j'ai accès à un problème technique. Elle vous demande, vous avez chanté donc un soirée au marge à Anne Sylvestre, à la cigale, la chanson d'une sorcière comme les autres. Et la question qu'elle vous pose, c'est, est-ce que cette chanson aura une suite? Est-ce qu'elle sera enregistrée? Elle aimerait bien la réécouter.
Ah ben non, j'ai pas décidé. Bon, je dis non maintenant, peut-être qu'un jour j'enregistrerai une sorcière comme les autres, j'en sais rien. Je trouvais intéressant le côté. J'ai chanté ça parce que c'est une chanson assez fleuve, et en même temps, c'est une chanson que je chante au piano solo. Et je trouve que c'est intéressant, justement, d'épurer complètement ce genre de grandes chansons. J'aime beaucoup cette chanson, mais c'est pas ma préférée d'Anne Sylvestre, en fait. J'aime beaucoup, elle est assez évidemment formidable, etc. Mais elle a une fonction scénique, en réalité. C'est bien sur scène. Parce qu'on la porte, on la vit, on la livre vraiment. Sur disque, je suis pas sûr d'avoir envie de graver ça. Voilà, je réponds. Mais je la rechanterai certainement à l'occasion. Là, dans le spectacle, il y a une chanson d'Anne Sylvestre, mais c'est pas celle-là. Qui s'appelle Après le théâtre.
Je ne connais pas.
Elle n'est pas très connue, c'est un chef d'œuvre absolument.
Et vous avez Michel Bernard qui sort un roman, enfin une biographie, où elle rend hommage aussi à Anne Sylvestre qui l'a accompagnée.
Ah oui, elles sont très amies, elles étaient très amies, mais c'est grâce à Michel que j'ai rencontré Anne, de toute façon. Mais c'était. Oui, c'est un livre, Michel Bernard, là, elle sort un bouquin.
Sur sa vie.
Sur sa vie à elle, oui, c'est ça. Oui, je sais, parce qu'il y a une page de moi dedans.
D'accord.
On compte, parce qu'il n'y a pas que moi, évidemment.
On s'approche de la fin, je pense que vous avez commencé. Dans cet album, vous avez aussi élargi votre ménagerie. Puisque après, oui. Les cochons, bien sûr, les lapins, avec François Morel, le tigre, il y a eu, on voit arriver donc un chat et des chiens. Alors, est-ce qu'on peut arriver les deux, les chats d'abord,
oui.
À travers de la litanie, les litanies.
Alors, évidemment, le chien vous dévoilait la chute parce qu'effectivement, c'est une chose. Ça va finir par se savoir. C'est un peut-être qui est largement inspiré. Enfin, largement. Le principe de dire je suis le diable, qu'un chat parle en disant je suis le diable, c'est un court texte de Colette, je ne sais plus dans quel recueil elle en a tellement fait, qui s'appelle Poum. Le texte qui s'appelle Poum, c'est le nom d'un chat qui commence par dire le diable. Je suis le diable, juste quand elle le décrit, c'est juste un mignon petit chat noir qu'on a en équipe qui se prend hyper au sérieux, quoi, qui pense qu'il est un dangereux fauve. C'est très très drôle, le texte est très drôle. Et donc, je suis le diable, ça m'est venu comme ça, en disant pour une évocation de chat. Et en fait, plus j'ai avancé, plus je me suis dit, je ne vais pas dévoiler que c'est un chat, je ne vais pas le dire. Je ne dirai qu'à la fin. Évidemment, maintenant, il y a des gens qui l'entendent, je ne savoir qu'il s'agit d'un chat. Mais c'est d'autant plus amusant qu'une fois qu'on sait que c'est un chat, et que soi-même on a des chats, on fréquente un peu ces drôles d'individus. J'en ai assez eu des chats et j'en ai assez pour, je crois, commencer à un peu cerner la multiplicité des personnages que ça peut être. C'est la psychologie du chat est très complexe, mais en même temps très. C'est un peu. Justement, comme on va dire l'ironie, etc. Je pense que ce sont des êtres très ironiques, les chats.
Et donc vous enchaînez l'italie des chats, l'italie du diable. Vous enchaînez avec la Madone des Clébards que j'ai entendu dans les
paroles. Oui,
dans les
oui. chose, c'est une constatation. Ça, c'était assez amusant parce que je me suis dit, les chiens sont des. Moi, j'adore aussi les chiens. Je serais presque plus chien que chat. Les chiens, ils sont pieds et poings liés à leur maître. Et il y a quelque chose de l'ordre des croyants. Quand vous avez des croyants qui sont en face de leurs églises, de leur prêtre et donc de Dieu, de l'image de Dieu, cette espèce de dévotion absolue que les chiens peuvent avoir envers leur maître, qui est quand même parfois complètement absurde parce que leur maître peut être parfois des sales individus. Et je trouvais que c'était joli d'y mettre quelque chose d'excessivement religieux. C'est-à-dire, vraiment, c'est écrit comme prière, c'est une raison, c'est un critère. Ça revient tout le temps, priez votre mère, la madame d'écrivain, priez votre mère, la madame d'écrivain. Et en même temps, voilà, il y a une description des carrières de chiens. Parce que les chiens peuvent être pour nous, à la fois, parfois, des chasseurs, des gardiens, des bêtes de concours. Mais voilà, qu'ils aient une espèce de possibilité de non pas de rédemption, mais de paradis promis. Parce que ces êtres sont tellement dévoués, tellement entièrement dévoués, entiers, qu'ils méritent un beau paradis de gloire, je pense.
Et vous parlez également du comportement des humains vis-à-vis des chiens, notamment les abandons. Et moi, tout de suite, j'ai fait la référence avec, je ne sais pas si vous connaissez la chanson de Rastas Montélimar.
C'est
son dernier disque. Allez-y, allez l'écouter, je pense que ça vous fera l'écho. On parle des personnes qui abandonnent leur kebab du côté de Montélimar. Aussi, et il dit, c'est une dernière fois où Brassens dit des choses dures, il dit sur la fin, excusez-moi, sans appel de respect, les hommes siens, les béotiens qui font ça n'ont pas d'âme, non, que leurs autos butent presto contre un poteau. Donc il y a un nombre de. Donc on écoute, bien sûr, on va écouter les chats et les chiens. On termine donc sur. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez eu la tentation ou vous avez en projet de faire des morceaux instrumentaux ?
Alors, j'en fais pour mon plaisir, en fait. J'ai quelques pièces comme ça qui dorment. Généralement, je travaille, j'aime bien l'idée d'écrire des trucs pour des gros orchestres. Donc, il y a quelques pièces qui dorment comme ça dans des fonds de tiroirs, un jour ou les jours peut-être. Mais je ne vais pas faire ça en disque, par exemple, pour l'instant, sauf peut-être avoir une proposition d'un orchestre symphonique qui a envie de jouer des trucs rigolos. Mais oui, ça m'arrive. Mais j'écris comme des chansons, donc je ne suis, suis pas un compositeur, donc une compositrice, pardon, dans le genre savant, qui fait des trucs. J'écris toujours sur la forme, ça reste des chansons, et pourquoi pas des chansons pour orchestre sans parole, mais ça reste.
Comme Gilles Gonzalez, comme Albert Barcelone, qui ont écrit des musiques de films.
Si on me demande de faire des musiques de films, je ne dirais pas non, ça c'est sûr. Mais pour l'instant, on m'a jamais demandé. Donc voilà. Mais oui, bien sûr, si on pouvait faire un tel accord pour des choses comme ça, je pense que je ne dirais pas non.
Et après, on parle de la musique et de l'écriture. Moi, dans vos interviews que j'ai écoutées, quelque chose qui, parmi tout ce qui m'a frappé, il y a deux choses. D'abord, le fait que vous écrivez papier crayon, que vous rayez pour retrouver, ça, si vous pouvez en parler. Et après, ce qui revient régulièrement, d'écrire pour la postérité.
Oui, alors, papier crayon, c'est assez évident. C'est qu'en fait, il y a des fois quand on écrit. Bon, ça ne me donnerait pas l'idée d'écrire sur ordinateur, parce que le lien ne se fait pas sans doute aussi entre la main et la pensée, il se passe un truc. C'est vraiment l'idée de ça, c'est-à-dire que le nombre de fois où j'ai rayé des trucs et où j'étais super content de les retrouver, soit parce que ça pouvait faire une chanson, soit parce que ça pouvait faire c'était pas la bonne place pour le mettre, mais ça, après c'était la bonne place pour le mettre, ça m'est arrivé dans le dernier disque, au moins 25 fois, dans les escaliers, tous les escaliers mènent à Rome, c'est devenu le refrain en réalité, mais je l'avais mis au départ dans un découplé, puis je l'avais rayé, et le rayé, ça veut dire le retrouver. C'est effacé. Et moi, je raye pour pouvoir retrouver, effectivement, on relie à des trucs. Souvent, il arrive quand on écrit un truc qui nous plaît, mais en même temps, c'est pas la bonne place, c'est pas là qu'il doit être, c'est ailleurs, donc on va le mettre ailleurs après.
Et pour terminer, deux chansons, bien, vraiment là-dessus. pochette. On voit oui. Que ça, c'est...
Ouais, je l'ai pensé aussi, parce que dans, les, dans la monnaie de pochette, c'est parti là-dessus. Après, c'est pas tout à fait les mêmes principes harmoniques, mais effectivement, j'y ai pensé, et puis ça monte et ça descend, évidemment. Mais là, c'est ça, précisément, ne parle que des escaliers. Que la monnaie de pochette, c'était un autre sujet.
Et donc, le dernier titre qui est dans cet album, je crois qu'il conclut l'album, Regarde-moi bien.
J'avais envie de cette chanson en fait parce que j'avais fait l'arrangement sur cette chanson et donc je me suis dit que je n'allais pas le faire pour rien et c'est pendant les premiers confinements que je me suis remise à faire un peu de musique et j'ai dit tiens c'est quand même assez chouette, je la chante très bien, c'est une chanson que j'aime beaucoup, bref, voilà, c'est pas partie des plus connues, elle est assez étrange, on reconnaît sa patte immédiatement, même si on ne connaît pas la chanson, c'est tout de suite que c'est lui, et elle a un côté mystérieux, on sait pas très bien quand ça parle, mais c'est assez merveilleux, une chanson dans laquelle on peut rentrer en tant qu'imaginaire des images et puis faire sa propre histoire.
Je ne sais pas si vous connaissez Michel de Gelderode, c'est un auteur belge.
Bien sûr.
Le cavalier bizarre. Moi j'ai eu l'occasion de le jouer au théâtre, donc ça m'a fait penser à ça, mais le désert des Tartares où il attend sans cesse le
cavalier. Il y a une chanson de qui est absolument le désert des Tartares, c'est un drap. Absolument. Donc est-ce qu'il a il a pu, enfin je pense que ça fait partie des choses, il a pu s'inspirer de ce qu'il a lu et de ce qui lui a plu en livre. Je pense qu'il n'avait pas de problème avec ça, s'inspirer des choses qui existaient.
Et il y a aussi cette allusion à la mort, alors c'est pas dit dans la chanson, il n'y a aucunement ça, mais il y a dans le bizarre de ce personnage qui arrive à cheval, il y a une étrangeté, une inquiétude.
Il y a une inquiétude, mais il y a une inquiétude aussi de... Moi, j'aime bien l'idée que ça soit un peu... Moi qui suis quand même assez nourri de jeux vidéo, par exemple, il y a quelque chose de jeux vidéo là-dedans, dans cette espèce d'aventure, comme ça, dans des mondes un peu pseudo-médiévales, on ne sait pas trop, comme ça. Et j'aime beaucoup l'idée, dans cette chanson, de guerre qui s'approche, de choses un peu étonnantes, mais ça peut être que le frère métissé, le frère qui vient pas avec une armée pour détruire la ville de son enfance, on sait pas, il y a une espèce de vengeance, on peut imaginer mille choses, et effectivement ce cavalier unique, tout seul, ben ça peut être la mort sur son grand cheval aussi bien sûr, mais elle passe son chemin, c'est pas pour maintenant. Il y a quelque chose d'étonnant à la fin quand même sur ce personnage qui parle à cet enfant en lui disant regarde bien petit. C'est un enfant, c'est un adolescent, en tout cas, il y a une différence d'âge entre les deux. Et ce côté, tu peux sécher tes larmes, est-ce que c'est des larmes de peur, est-ce que c'est des larmes de tristesse, qu'est-ce que c'est ces larmes? Tu peux sécher tes larmes, tu peux ranger les armes. Donc la menace est passée, tu peux ranger les armes. Il y a un truc, de toute façon, il y a un truc qui suggère on est sur le bord d'une gouffre de la violence et de quelque chose de terrible en fait. Et puis on échappe.
Et puis entre porte et derrière il y a une jeune fille et derrière l'autre il y a un petit peu.
Exactement.
Allez, on termine. Là c'est pas si c'est pour ouvrir. En ce moment, est-ce que vous avez envie de partager avec les auditeurs quelque chose que vous écoutez qui ne serait pas dans votre univers, dans les mêmes types chansons ou autres que vous écoutez habituellement avec les artistes que vous aimez, quelque chose d'assez étrange que vous écoutez en ce moment qui vous plaît bien, ou un artiste
Pas du tout. J'écoute assez peu de musique parce que c'est une activité qui me prend du temps. D'abord, j'écoute très peu de chansons, c'est la vérité. J'écoute assez peu de chansons. Il y a des gens, j'aime bien écouter un truc ou deux. On parlait tout à l'heure d'Albon Massimone, qui est un garçon que j'adore. C'est marrant parce que je finis de sortir donc vient de sortir un disque en français. Si, ça c'est bien. Ça j'ai écouté, c'est assez formidable. Bien. French Kiss, la chanson est épatante. En plus, avec un bout de Debussy derrière, donc moi je suis cliente de ça à mort. Donc voilà, oui, je dirais ça. Tiens, si je devais dire quelque chose, c'est la Chili Gonzalez, le French Kiss, que j'ai trouvé vraiment, là encore une fois, pareil, du second degré, beaucoup d'ironie, c'est très drôle. Le mec est cher en plus, pour il se trouve que c'est comme Albin, des gens que je